Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est la suite de cette série spéciale Énigme Royale, cette semaine dans Cœur de l'Histoire. Et aujourd'hui, c'est un peu l'énigme reine que vont aborder Franck Ferrand et ses invités. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'énigme reine, je retiens l'expression pour parler du plus grand, du plus célèbre mystère de l'histoire de France, celui de la disparition, réelle ou supposée, du jeune fils et héritier de Louis XVI et Marie-Antoinette, longtemps prisonnier à la Tour du Temple. Pour évoquer l'énigme Louis XVII, j'ai convié aujourd'hui celui qui en est devenu le plus grand spécialiste, Philippe Delorme, et un auteur qui, tout au contraire, est venu au sujet avec un œil neuf, le dramaturge Jean-Louis Bachelet. Hier, à propos de Meyerling, nous avons refusé de trancher. Nous en sommes restés à un grand mystère, si je puis dire. Eh bien, vous allez voir que mes invités, eux, ont une opinion bien arrêtée quant à la résolution de cette énigme. Je n'ai pas invité de défenseur de la thèse adverse, car pour m'être souvent penché sur la question, je sais que le moindre débat sur le sujet prend immédiatement des heures et il aurait fallu alors à ce moment-là une semaine spéciale Louis XVII.
On va y penser. Tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Éléonore sur l'origine du terme arlésienne pour désigner quelqu'un ou quelque chose dont on parle mais qui n'arrive jamais.
La réponse est tout sauf mystérieuse là. Pour le moment, rouvrons le dossier de votre énigme reine.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu trois enfants qui ont dépassé l'âge du berceau. Une fille, Madame Royale, à laquelle Anne Muratori-Philippe vient d'ailleurs de consacrer une biographie, nous aurons l'occasion d'en reparler, et deux fils, Louis-Joseph et Louis-Charles. Le premier est donc dauphin de France, il faut l'imaginer, c'est un enfant délicieux Louis-Joseph, vous avez un enfant très intelligent, cette espèce de petit surdoué qui vous regarde avec des yeux qui ont l'air de vous transpercer. Malheureusement, il est atteint dès sa troisième année d'une maladie qui va se révéler tuberculeuse. Son enfant est dès lors un long calvaire. Il souffre en silence et finalement il s'éteint juste à l'aube de la Révolution, au printemps 1789, pendant la réunion des États généraux. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, sa mort va passer sinon inaperçue. En tout cas, on ne peut pas dire que sa mort ait été un grand événement. C'est incroyable et ça en dit long sur l'exaspération populaire à l'époque. Donc, à partir de 1789, c'est le petit Louis-Charles, surnommé par sa mère Chou d'Amour, qui devient le dauphin. Il suit ses parents dans tous les épisodes de cette incroyable tourmente révolutionnaire. On le voit aux Tuileries, bien entendu, où il va passer le plus clair de son enfance, et puis au Temple, où il va partager la captivité de la famille royale. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, comme je le rappelais ce matin à Thomas Soto, enfin chez Thomas Soto, c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, la veille de l'exécution du roi, enfin de l'ancien roi, Louis XVI a reçu ses proches pour les adieux. On imagine la détresse affreuse des enfants qui savent qu'ils ne reverront plus leur père. La grande sœur de Louis-Charles, Marie-Thérèse, donc si vous préférez Madame Royale, a raconté ces minutes poignantes. « Il pleura de notre douleur, écrit-elle, mais non de sa mort. Il donna ensuite de bonnes instructions religieuses à mon frère et lui recommanda surtout de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. » Le lendemain matin, le roi est donc conduit en voiture place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Il va monter à l'échafaud. C'est une salve de détonation qui va avertir la famille royale et donc Louis-Charles, que le père, que Louis, a cessé de vivre. Le roi est mort, vive le roi. Désormais, pour les fidèles de l'ancien régime, le petit dauphin sera Sa Majesté Louis XVII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Autant dire que du jour au lendemain, cet enfant roi devient une pièce maîtresse sur l'échiquier politique de la Révolution. Dans les rangs royalistes, nombreux sont ceux qui seraient prêts à mourir pour lui. Et les révolutionnaires, quant à eux, s'arrachent les cheveux. Que faire de cet enfant et accessoirement de sa famille? À l'Assemblée, les débats font rage. On ne peut tout de même pas envoyer des enfants à l'échafaud. Mais alors que faire? Qu'en faire, devrais-je dire? Le comité de salut public décide dans un arrêté du 1er juillet 1793 que, je cite, « le jeune Louis, fils de Capet, sera séparé de sa mère et placé dans un appartement à part, le mieux défendu de tout le local du temple ». Fin de citation. Vous avez bien compris, on a ordonné d'arracher l'enfant du temple à sa mère. Le petit va désormais vivre totalement coupé de sa famille pour un enfant de 8 ans. C'est un traumatisme terrible, faut-il le préciser. En séparant l'enfant de sa famille, la Convention poursuit un but précis. Il s'agit de rééduquer l'occupant prétendu du ci-devant trône, autrement dit, essayer d'en faire un bon petit républicain. Pour ce faire, Louis XVII est confié à un instituteur, si j'ose dire, un dénommé Antoine Simon, qui vient s'installer au temple pour « démocratiser l'enfant royal ». Ce sont les propres termes de la Convention nationale. Simon est un proche d'Hébert, une des têtes pensantes de la toute jeune République. Et la rééducation commence. Et elle fonctionne, cette rééducation. Simon met une ardeur particulière à faire perdre à l'enfant l'idée de son rang. Nous allons voir que la réussite du cordonnier va aller bien au-delà de toutes ses espérances. Il va même trouver, entre parenthèses, le moyen de faire témoigner l'enfant contre sa mère dans la perspective du procès que l'on intente bientôt à Marie-Antoinette. Il s'agirait de dénoncer de prétendues pratiques indécentes, bref, une infamie sans nom. La reine est guillotinée le 16 octobre. Son fils ne le saura jamais et on dit que lorsqu'il rentrait de promenade, il continuait de déposer régulièrement des fleurs devant la porte de sa mère qu'il croyait encore en vie. Bientôt, la tante, Madame Élisabeth, sera guillotinée à son tour et ne restera au temple que la grande sœur de Louis-Charles, donc Marie-Thérèse. Au début de l'année 1794, l'infâme Simon ayant opté pour la fonction plus prestigieuse, sans doute, de membre de la commune, s'ouvre la page la plus obscure de la vie, de la courte vie de Louis-Charles, de celui que ses partisans appellent Louis XVII. L'enfant roi est placé au secret, il est emprisonné dans un galetas de la tour du temple qui ressemble de plus en plus à un cachot. On est là au moment de la terreur. Alors, les repas très rudimentaires sont les seules distractions qui sortent l'enfant de sa torpeur. On lui sert quelques légumes secs et de la viande bouillie qui lui sont donnés à travers un guichet. On ne lui parle pas, évidemment. Les semaines passent. Ce sont des semaines d'un infini désarroi pour cet enfant, des semaines de peur, des semaines d'angoisse pour un petit garçon de 9 ans.
Extrait du Requiem de Mozart à l'instant sur Europe 1. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous revenez sur le plus célèbre mystère de l'histoire de France, la mort de Louis XVII. Louis XVII, pour l'instant, n'a que 9 ans et déjà une vie terriblement difficile.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, sa vie a basculé dans l'enfer. François Chandernagor a parfaitement décrit le calvaire de cet enfant coupable aux yeux de la Révolution d'être le tout jeune chef de cette famille des Capétiens censés tenir leur pouvoir de Dieu et régnant sur la France depuis 800 ans. Quand survient la chute de Robespierre, ce qu'on appelle Thermidor, vous savez, le 28 juillet 1794, pour reprendre l'ancien calendrier, cela fait 6 mois déjà que Louis-Charles vit complètement seul, complètement isolé dans son cachot. Le nouvel homme fort après Thermidor, Paul Barras, va quand même se rendre au temple pour essayer de prendre la mesure de la situation et pour voir ce que devient le fils de Louis XVI. Et là, ce qu'il découvre le sidère. Il décide alors de donner un nouveau gardien à l'enfant. Il nomme un certain Laurent qui, comme nous allons le voir dans une lettre adressée le 31 août au comité de sûreté générale, va prendre des mesures dès son arrivée. Laurent décide, et je trouve que d'ailleurs la démarche qu'il adopte envers le comité de sûreté est particulièrement courageuse, parce qu'il demande une sorte d'élargissement de l'enfant d'une certaine manière, et il demande qu'on puisse s'occuper de lui, qu'on puisse le promener, etc. Et grâce à ce nouveau geôlier, on peut dire que les conditions de détention de Louis s'améliorent. Laurent pourvoit à ses premiers besoins, laver, panser les plaies évidemment, éclairer et nettoyer la chambre, c'était le moins qu'on puisse faire. Il obtient donc des commissaires du temple la permission de porter l'enfant, de le promener sur la plateforme de la tour, etc. Mais malgré ses efforts, en mai 1795, l'état du petit captif, qui n'a cessé de se dégradé, est déclaré sans espoir. Il n'y a vraiment plus d'espoir. On a trop longtemps attendu. Et Louis-Charles, Louis XVII si vous préférez, meurt à la prison du Temple le 8 juin 1795, donc à l'âge de 10 ans. C'est du moins la version officielle. Car après la Révolution, à plusieurs reprises, en 1846, en 1894, on va exhumer le corps présumé de l'enfant du Temple et l'on constate que le squelette est celui d'un enfant de 14 ou 15 ans, pas du tout celui d'un enfant de 10 ans. Il mesure 1m53, il présente des différences assez notables avec ce qu'on savait de la morphologie du petit prince, et c'est à partir de là que va naître l'énigme. D'ailleurs, quand je dis que c'est à partir de là, l'énigme, elle a commencé même bien plus tôt, elle a commencé dès l'époque de la mort du prince, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités. Depuis longtemps, on avait imaginé l'enlèvement de l'enfant et son remplacement par un adolescent anonyme. Il n'en fallait pas plus pour que pendant toute la première moitié du XIXe siècle surgissent de partout des prétendants qui affirmaient, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de conviction ou d'autoconviction, qui prétendaient être eux-mêmes en personne ce fameux miraculé. Le plus célèbre, évidemment, ce sera Karl Wilhelm Charles Guillaume Naundorff, un horloger prussien reconnu comme légitime par de nombreux témoins de l'époque, mais dont l'imposture va être mise à jour, quoique de façon contestée, ça aussi nous allons essayer d'y revenir, par des analyses ADN réalisées en 1998. C'est redoutable l'ADN parce que c'est scientifiquement incontestable et donc médiatiquement c'est imparable. Reste à savoir toujours, c'est la grande question, la seule somme toute, reste à savoir sur quels échantillons organiques on réalise les analyses. Et pour ce qui regarde Louis XVII, c'est une question cruciale. En l'an 2000, une grande conférence de presse est réunie pour annoncer au monde que le cœur prélevé sur l'enfant du Temple par le chirurgien qui menait l'autopsie a été soumis à des analyses ADN et que ces tests permettent d'affirmer qu'il s'agit bien du fils de Marie-Antoinette. L'organisateur de ces travaux et de cette conférence, c'est bien sûr Philippe Delorme qui est avec nous dans ce studio. Selon lui, l'affaire est donc une fois pour toutes résolue. Louis XVII est bien mort au Temple. Alors au risque d'agacer un tantinet Philippe Delorme, je rappelle qu'au moment de l'inhumation officielle de ce cœur royal à Saint-Denis en 2004, plusieurs survivantistes sont les partisans de la survie de l'enfant qui aurait donc été substitué, qui aurait pu s'évader en quelque sorte de la prison du Temple. Eh bien un certain nombre de ces érudits ont émis des réserves sur la provenance du cœur soumis au fameux examen ADN du professeur, enfin on y reviendra à ça tout à l'heure. Ils ont émis l'hypothèse que ce cœur censé avoir été récupéré dans le bureau de l'archevêque de Paris au moment de la Révolution de 1830 ait pu être celui du premier dauphin Louis-Joseph, mort donc en 1789, ce qui maintiendrait le mystère. J'entends déjà certains d'entre vous murmurer « Mais après tout, est-ce que c'est tellement important ?» Eh bien oui, c'est important car en 1814, en 1815, après la chute et la rechute, si je puis dire, de Napoléon, la monarchie a été restaurée en France et, comme Louis XVII était réputé mort depuis 20 ans à l'époque, c'est son oncle, le frère de Louis XVI, qui est monté sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Il vaudrait mieux pour lui, pour sa légitimité et pour celle de son successeur Charles X, que Louis XVII n'ait pas survécu quelque part en secret. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la légitimité royale de France appartient peut-être aujourd'hui encore à quelqu'un qui n'en est même peut-être pas conscient et qui se promène quelque part dans le monde avec au-dessus de la tête une couronne virtuelle parmi les plus prestigieuses de tous les temps. Cela explique la fascination de générations d'historiens pour ce mystère. Cela explique la pléthore d'ouvrages publiés sur le sujet. Je vais vous faire une confidence, ici même, rue François 1er, il ne passe pas un mois, et je pourrais croire qu'on doit pouvoir dire 3 semaines, sans que me parvienne un dossier, un mémoire, un manuscrit, un fascicule, ou bien entendu un livre, apportant un regard spécifique sur l'affaire Louis XVII. De cette littérature, nous avons donc aujourd'hui extrait 2 livres sérieux, les plus récents, incontestablement, et nous avons invité leurs auteurs à nous livrer donc le fond de leurs pensées. Bonjour messieurs. Alors c'est une affaire très passionnante que nous avons à régler. Ça tombe bien, si je puis dire, vous êtes globalement d'accord sur la conclusion à tirer, même si vous n'avez pas toujours tout à fait les mêmes arguments. On va revenir sur cette affaire dans un instant et je vous prierai, s'il vous plaît, d'avoir le fair play, de nous faire part aussi des thèses adverses.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et pour cette semaine spéciale consacrée aux énigmes royales, aujourd'hui voici la question que l'on se pose jusqu'à 15h avec vous Franck Ferrand. Louis XVII est-il mort au Temple à 10 ans ou beaucoup plus tard ailleurs? Vous recevez 2 invités, Franck. Jean-Louis Bachelet, dramaturge, auteur de Sang royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, paru chez Ring. Et Philippe Delorme, historien et auteur de Louis XVII, la biographie Via Romana.
Un ouvrage de Philippe Delorme sur Louis XVII, c'est à la fois rassurant parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'éléments très précis, très pointus, mais en même temps ça ne surprend pas grand monde. Un ouvrage de Jean-Louis Bachelet sur Louis XVII, c'est beaucoup plus étonnant. Qu'est-ce qui vous a pris, Jean-Louis Bachelet ?
Ce qui m'a pris tout simplement, c'est que j'ai toujours été intrigué par cette histoire d'enfant royal, martyrisé par la Révolution, et j'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis parti avec un esprit totalement libre au départ. Je n'avais aucune conviction réelle quant à l'issue de ce qui s'était passé au Temple. Et j'ai décidé de parcourir le maximum d'ouvrages.
C'est très précieux ça, parce que aussi bien Philippe que moi vivons, j'allais dire, dans cette histoire depuis je ne sais plus combien de décennies maintenant. Et donc il est très 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 difficile d'avoir un regard neuf. Vous aviez un œil neuf, c'est ce que
j'avais
vous dites.
J'avais un œil neuf, seulement parce que je suis pas historien. Hein, et en parcourant tous les ouvrages, il y en a 2. Qui m'ont profondément marqué, un ouvrage de Chantelouze, que Philippe Delorme connaît certainement très bien, et puis naturellement l'ouvrage de Philippe Delorme, L'énigme Louis XVII, qui m'a apporté la conviction intime que l'enfant était mort au Temple.
Ça fait plaisir à entendre. Merci. Philippe Delorme. Donc Louis XVII, selon vous, est bien mort en 1795 à la prison du Temple.
Vous parliez tout à l'heure du squelette qu'on a retrouvé à Sainte-Marguerite et qui a beaucoup fait parler. En fait, tout simplement, ce n'est pas le squelette de l'enfant mort au Temple. C'est un squelette.
Ah mais ça, c'est incontestable. Oui.
C'est un squelette qu'on a trouvé, qui était.
Alors, pardon,
un des
quand je dis c'est incontestable. Non. En tout cas, ce n'est pas le squelette de Louis XVII.
Non, mais ce n'est pas non plus le squelette de l'enfant mort au Temple. C'est un squelette anonyme de plus qu'un adolescent d'ailleurs, parce que le
oui,
crâne.
Oui, c'est un jeune homme.
Et le crâne d'un homme de 18 ans, du 20 ans. Donc, on imagine bien que si les révolutionnaires avaient voulu substituer quelqu'un à Louis XVII, ils auraient quand même pris un enfant à peu près de son âge et non pas un adolescent, un très grand adolescent de 18 ans. Ça ne tient pas simplement parce que squelette n'est pas celui de l'enfant du Temple.
Pourquoi est-ce qu'on l'a sorti? C'est ça?
Eh bien, ce cimetière Sainte-Marguerite, un cimetière où il y avait, beaucoup de squelettes qui venaient des hôpitaux, des environs. Et donc, on a trouvé un crâne, et un crâne scié, parce qu'effectivement le crâne avait été autopsié, mais des crânes autopsiés, il y en a bien d'autres, je dirais, à Sainte-Marguerite, et trouvant un crâne autopsié, on a dit ça doit être celui de Louis XVII, non, c'était simplement un crâne anonyme d'un malheureux qui était mort dans un hôpital de l'époque.
Mais ça n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin de tous ceux qui pensaient, depuis déjà longtemps, que Louis XVII n'était pas mort au Temple, qu'il avait été exfiltré d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais
ça vient d'où d'ailleurs? Qui a été le premier à émettre l'idée?
Dès la mort de Louis XVII, Cambacérès a dit on va voir courir sur les routes de France des faux dauphins. Et c'est vrai que très très rapidement, on a eu Hervago, un des premiers a été Hervago, qui était en fait, c'est amusant parce que c'est un bâtard d'un prince de Monaco. Donc ça lui avait monté un peu à la tête, et donc ce fils adoptif d'un tailleur de Saint-Lô en Normandie s'est cru Louis XVII. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu un livre qui parlait des 101 faux dauphins comme des 101 dalmatiens. Et c'est vrai que
il y en a même eu plus que ça entre nous.
Il y en a plus parce qu'il en est tous les jours, et comme vous disiez tout à l'heure, il y a tous les jours des gens qui imaginent être descendants de Louis XVII et que son ancêtre et s'est sorti du temple de manière plus ou moins secrète.
J'ai reçu moi-même dans ce studio un certain nombre de défenseurs, de prétendants au statut de Louis XVII. Je me rappelle notamment un diplomate français qui a écrit un livre très intéressant sur la piste argentine. Mmh. Il a retrouvé en Argentine les traces, alors ça c'est absolument indubitable, c'est historiquement.
Benoît,
monsieur Benoît, mmh, qui était convaincu, lui, d'être Louis XVII et qui avait un certain nombre de souvenirs de la famille royale. Enfin, etc. Ça, c'est une piste. Je pourrais en citer d'autres parce que j'en ai reçu pas mal. Quel effet ça peut faire, ça, quand on découvre cette immensité des possibles, Jean-Louis Bachelet? Vous avez étudié chacune des pistes, ou?
Pas toutes, naturellement.
Non, pas toutes.
Étant passionné, j'avais décidé de choisir les principales, naturellement. Mais effectivement, on est très impressionné de voir à quel point, dans l'imaginaire collectif français, cette idée de la survivance du petit roi était présente.
Alors, on va passer un accord, un gentleman agreement, si vous voulez. Nous allons prendre tout le temps nécessaire pour entrer dans les détails de l'affaire et pour expliquer pourquoi, selon vous, Louis XVII est mort au Temple. Mais dans un premier temps, on va revenir sur la piste du plus célèbre des prétendants, de celui qui, évidemment, a été au XIXe siècle, à lui tout seul, un grand événement, un phénomène historique. C'est Charles-Guillaume Naundorff. Nous allons reprendre notre conversation dans un instant sur Naundorff.
Franck Ferrand et ses invités vous replongent au cœur du mystère de la mort de Louis XVII cet après-midi. Cette histoire vous passionne certainement. Vous pouvez bien sûr laisser vos messages à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous donc sur Twitter avec le hashtag ACDH. Vous pouvez également poster vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Où est mort Louis XVII et à quel âge? Voilà la question que l'on se pose jusqu'à 15h cet après-midi sur Europe 1. Pour cela, il va falloir revenir sur toute l'histoire. Franck Ferrand avec vos invités, Jean-Louis Bachelet, dramaturge et auteur de Sang Royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France. Et Philippe Delorme, historien et auteur de Louis XVII, la biographie chez Via Romana.
Oui, alors on va revenir évidemment sur toute l'histoire. On va revenir sur l'autopsie qui a été conduite par le docteur Pelletan. Ça, on y viendra tout à l'heure. Mais revenons d'abord sur ce personnage de Naundorff qui se présente beaucoup plus tard,
oui,
Philippe Delorme.
En 1833 seulement, donc c'est un homme de 50 ans qui arrive.
Qui arrive 40 ans plus tard.
Voilà, du fin fond de la Prusse avec un accent, plus qu'un accent allemand parce qu'il parlait pratiquement pas français. Et il va avoir, alors c'est quelqu'un qui avait une certaine empathie, un sens de la communication, on dirait aujourd'hui, et qui va réussir à convaincre.
Une certaine allure, incontestablement.
Une certaine allure, qui va réussir à convaincre un certain nombre de, je dirais, de vieux courtisans de Versailles, des
qui gens qui ont pris 40 ans eux aussi.
Voilà,
bien sûr.
Des gens qui ont 70 ou à 80 ans, hein, et donc qui le reconnaissent, en particulier Madame de Rambaud, qui avait été une des berceuses de Louis XVII. Mais c'est un personnage effectivement un peu énigmatique dans la mesure où il a cette espèce de pouvoir de conviction, qui entraîne une certaine frange des royalistes autour de lui. Mais ce n'est pas le plus connu des faux dauphins à l'époque, hein. Et à l'époque, il y a un certain Richemont, en particulier les barons de Richemont, qui a beaucoup plus de partisans et qui est beaucoup plus convaincant, finalement.
Sauf que lui n'a pas eu de descendance.
Voilà,
donc ça avait moins d'impact.
C'est ça qui fait qu'on parle encore de Naundorff aujourd'hui, c'est qu'il a eu une descendance et que cette descendance porte légalement le nom de Bourbon. Parce qu'il a été déclaré dans son acte de décès en Hollande sous le nom de Bourbon. Et donc, on a aujourd'hui des Bourbons fantômes, je dirais.
Oui. Alors, voilà, ouais, moi, j'ai reçu ici et à la télévision Hugues de Bourbon, qui est le descendant actuel de Charles-Guillaume Naundorff, qui d'ailleurs, avec beaucoup d'objectivité et je trouve d'humilité, ne prétend pas rien, il aimerait seulement savoir, ne serait-ce que pour lui-même,
oui,
déjà.
Il est assez dubitatif, je dirais,
voilà,
sur son ascendance
royale.
Oui,
il se pose des questions, bien entendu, et il a eu affaire au professeur Lucotte, que vous connaissez bien, vous aussi, par ailleurs, Jean-Louis Bachelet.
Tout à fait. Alors, concernant Hugues de Bourbon, effectivement, ce qui frappe, c'est son humilité. Il veut savoir, et surtout, je crois qu'il reste très impressionné par la somme de témoignages accumulés
bien
autour
sûr,
de
oui.
son ancêtre. C'est vrai que lorsqu'on aborde les choses comme ça, de prime abord, on est toujours un petit peu stupéfait de voir ce que savait Naundorff sur le passé de la famille royale.
Il est vrai qu'il y a un an et demi, l'affaire a rebondi, comme on dit dans la presse, du fait des fameux travaux du professeur Lucotte qui ont semé le trouble, disons. Depuis 1998, on avait dit c'est terminé, il n'y a plus du tout de...
Oui, alors, je voudrais dire que les travaux du professeur Lucotte, j'en parle en particulier dans mon livre,
alors,
sont
voilà,
très
oui.
très sujets à caution. Le professeur Lucotte, qui n'est pas d'ailleurs professeur, qui est docteur Lucotte, qui est un généticien extrêmement controversé dans le milieu universitaire, a émis des tas de choses. Par exemple, il a prétendu avoir déterminé le chromosome Y du Christ.
Oui, ça c'est la tunique d'argent, c'est ça, voilà, toute autre histoire.
Tout ça, oui, mais tout ça montre un petit peu le côté un peu farfelu du personnage et les travaux qu'il a fait sur les...
Et en même temps, oui, mais...
Les Nundorf ont été publiés dans des revues qui n'ont aucune valeur scientifique. Et donc, bien sûr, il faut prendre ça avec beaucoup de...
Il ne faut pas oublier quand même qu'à côté de ça, le professeur ou docteur Lucotte, comme vous voudrez, a mené des travaux très très en avance sur son temps, sur l'utilisation du génome ancien et sur la restauration
de l'ADN. Depuis sa carrière, a eu des hauts et des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts.
Concernant justement, pour compléter un peu ce que dit Philippe Delorme, concernant les tests ADN et leur valeur irrévocable, je crois qu'il faut garder un petit peu une certaine distance par rapport à tout ce qui justement est scientifique. Hein.
Est-ce que vous ne croyez pas, finalement, Jean-Louis Bachelet, ça c'est mon avis, mais est-ce que vous ne le partageriez pas cet avis, que l'irruption de l'ADN dans ces questions... crée une distorsion grave. Car ça aboutit à confier le travail de l'historien à des scientifiques qui ne sont pas historiens, qui d'ailleurs se gardent toujours de tirer des conclusions, mais qui sont tirés à hue et à dia derrière par des historiens qui, eux, n'ont pas accès à ces éléments.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en 1894, lors de la deuxième exhumation, un certain nombre de partisans de Nundorf entouraient cette exhumation, et Gaston Labrousse, qui était un des commanditaires de ces travaux, a protesté en disant que les résultats proposés par le docteur De Becker n'étaient pas conformes à ce que lui avait vu. Alors moi j'ai présenté les planches de dessin faites à l'époque au directeur actuel de l'Institut médico-légal de Paris, le professeur Ludès, qui l'a fait expertiser par l'anthropologue de l'Institut, laquelle a... trouvé dans une certaine forme de disparité entre les planches en question et les analyses de l'équipe de Bakker. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il faut se garder de confier à la science effectivement un verdict définitif sur des choses qui sont...
Si vous avez eu recours à la science,
Justement, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre en place une méthodologie très stricte. Ce qui est du domaine de l'historien doit être fait par l'historien, et celui du domaine du généticien par le généticien. L'ADN ne nous donne pas une identité, ne nous dit pas, par exemple, c'est le cœur de Louis XVII. C'est simplement l'enquête historique qui est mené autour de ce cœur, sur ses origines, sur son parcours, qui nous permet de donner un sens à l'analyse ADN. L'analyse ADN n'est qu'un élément, comme dans un procès d'assises finalement, où les experts apportent un élément, mais ce n'est pas eux qui sont...
C'est l'enquêteur normalement qui est le dernier mot.
L'enquêteur va conceptualiser, va mettre tous ces éléments dans une enquête et va arriver à une conclusion. Et là, c'est pareil, dans une enquête historique...
L'ADN ancien, c'est autre chose encore.
Oui, alors l'ADN ancien, le cœur de Louis XVII, le cœur est le cœur d'un enfant de Marie-Antoinette, probablement, ça c'est ce que nous dit les généticiens, et l'enquête historique nous permet de conclure que c'est le cœur de Louis XVII, mais... Si vous voulez, les deux éléments doivent se mettre un peu comme dans un puzzle, bout à bout, pour arriver à une conclusion définitive.
Alors, on a bien compris que je ne vous ferai pas du tout bouger de vos positions. Vous êtes convaincus l'un et l'autre que l'enfant est mort au temple. Si l'on devait chercher les deux ou les trois arguments qui iraient dans le sens inverse, Jean-Louis Bachelet, quels sont les éléments qui peuvent faire douter de la mort du petit prince à la tour du temple, parmi tous ceux que vous avez été amenés à collecter pour écrire ce livre sans royal?
Là, vous me chahutez, Franquin, effectivement. Après avoir passé un certain temps justement à être convaincu du contraire, je vais devoir chercher dans mon esprit très très loin en arrière. Non, effectivement, je crois qu'il y a d'une part, comme je le disais tout à l'heure, l'imaginaire collectif, une espèce de refus d'accepter qu'un enfant royal ait pu mourir dans ces conditions-là.
Dans des conditions aussi abjectes.
Voilà, je crois qu'il y a ça.
C'est inouï historiquement. Ça.
Voilà. Surtout qu'en plus, je pense que Philippe Delorme sera d'accord, mais il n'y a pas eu de mort plus régulièrement constatée dans l'histoire que celle de Louis XVII. C'est absolument effarant. C'est-à-dire qu'on a toutes les précautions ont été prises par la Convention pour faire en sorte qu'on soit certain que c'était lui et qu'il était mort là-bas. Donc, surtout que Philippe Dorland avait raison de le souligner tout à l'heure, c'est prêter des intentions un petit peu stupides aux révolutionnaires que d'imaginer qu'ils aient pu substituer un enfant de 1m60 à la place d'un enfant de 10 ans. Ça paraît totalement...
Et il faut voir aussi que pendant l'année précédant la mort de Louis XVII, eh bien, au Temple, on a chaque jour deux commissaires qui sont nommés par les différents quartiers, les différentes sections de la Commune de Paris. Donc ces deux commissaires qui sont des bourgeois de Paris, qui ont très bien pu rencontrer Louis XVII lorsqu'il était aux Tuileries, dans son petit jardin, ou même à Versailles, et qui viennent constater son identité. Donc on a plus d'une centaine de témoins, je dirais, et aucun d'entre eux, à aucun moment, ne dira eh bien, ce n'est pas Louis XVII, il y a eu substitution. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Si on avait fait une substitution, on l'aurait caché un petit peu mieux.
C'est-à-dire que ça, c'est un argument qu'on entend souvent lorsqu'on évoque des énigmes historiques, c'est la question du silence. On se dit, étant donné le nombre de personnes qui, de près ou de loin, auraient été mises dans l'affaire, dans le secret, dans la confidence, quelqu'un aurait peut-être quand même fini par parler. C'est ça l'argument. Hein,
D'autant qu'il aurait été un peu assez glorieux pour quelqu'un qui aurait fait évader le petit Louis XVII au moment de la Restauration et d'en tirer gloire.
Et en même temps, ça aurait bien embêté le comte de Provence qui était en train de devenir le roi Louis XVIII.
Hein. Oui, oui. Évidemment.
Pour répondre à votre question, il y a eu un moment, effectivement, on peut douter de la mort de l'enfant au Temple, mais sur la base de témoignages qui, hélas, s'avèrent tous être des mensonges, des inventions. Il y a eu énormément d'inventions autour de ça. On a raconté des tas de trucs sur la mort conjointe du docteur de Sceaux, de Chopard et de Doublet.
Mais ça, par exemple, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est quand même assez frappant.
Bien, sauf qu'en cherchant dans les archives, on s'aperçoit qu'effectivement, Chopard est bien mort du choléra.
Il faut dire qui sont ces médecins, d'ailleurs.
Alors, c'était pas seulement de simples médecins. De Sceaux était une sommité pour l'époque. Quand on va à l'heure actuelle à l'Hôtel Dieu, dans Paris, on est accueilli par une grande plaque qui fait mémoire du professeur de Sceaux. C'était autour de cet enfant avait été réunies toutes les sommités du monde médical. Or, en regardant un petit peu...
Et autour de cet enfant, vivant ou mort?
Vivant. Et mort, bien sûr, sur la table d'opération, c'est bien sûr.
Que de Sceaux est mort tout simplement d'une fièvre méningite ou quelque chose comme ça qui...
Parce qu'on dit qu'on l'a tué
Non, on a tous les témoignages de ses collègues montrent bien il y avait une épidémie qui courait à l'Hôtel Dieu à ce moment-là.
Il y a une mention qui est faite dans l'intermédiaire des chercheurs et des curieux qui rappelle à trois reprises que dans l'année 95, il y a trois médecins qui étaient morts de cette affection-là. D'autre part, quand j'ai voulu, moi, consulter les archives de l'assistance publique, j'ai été très étonné de voir que le registre des décès, des entrées et des sorties de l'Hôtel Dieu pour le premier semestre 1795 a disparu. On se demande où est-ce qu'il est passé, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais j'ai trouvé ça quand même très troublant. En tout cas, la mort de Sceaux, la mort de Doublet, la mort de Chopard, compte tenu de ce qui se passait à cette époque-là, ce n'est pas du tout étonnant.
On aurait aimé que le gouvernement de l'époque, le directoire naissant, mette autant d'applications à sauver la vie de cet enfant qu'à constater sa mort, d'une certaine manière.
Oui, mais c'était assez... c'était un otage précieux et en même temps un peu embarrassant. C'est-à-dire que sous la Convention, Simon a demandé que doit-on en faire de cet enfant. Et évidemment, on n'allait pas le tuer, comme vous disiez tout à l'heure. Il fallait s'en débarrasser, il fallait s'en défaire. Mais s'en défaire de quelle manière? En le laissant mourir, en le laissant pourrir, finalement. Hein. Et après l'avoir essayé de lui faire un lavage de cerveau. Et ça, c'est absolument... encore plus honteux, je dirais, qu'autre chose.
On va y venir dans un instant. Votre ouvrage, Jean-Louis Bachelet, s'appelle « Sang royal ». Il est publié chez Ring avec ce sous-titre « La vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France ». Et l'on a bien compris quel était votre point de vue. L'ouvrage de Philippe Delorme s'appelle « Louis XVII, la biographie ». Et justement, dans les minutes qui nous restent, nous allons revenir un peu, après avoir beaucoup parlé de sa mort et des éventuelles questions qu'elle pose, nous allons revenir sur la vie de cet enfant et sur ce que l'on peut dire de façon absolument indubitable et historique sur la fin de sa vie notamment.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
l'énigme royale qui est au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1 et peut-être la plus célèbre énigme de l'histoire de France, la mort du jeune Louis XVII. Alors avec vos invités Jean-Louis Bachelet, dramaturge, et Philippe Delorme, historien, Franck Ferrand, vous allez revenir sur la courte vie de Louis XVII.
Eh oui, nous avons parlé de sa biographie et ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. Armel notamment nous dit que Louis XVII est une source d'inspiration multiple, là où on ne l'attend pas toujours. Un artiste japonais qui s'appelle Kamijo, nous dit-elle, musicien de métal symphonique de son état, s'inspire depuis 2013 du mythe de Louis XVII pour créer tout un univers musical. Et si le petit garçon avait été sauvé par un vampire et s'il était devenu le roi des ombres, etc. On peut dire que le sujet fascine dans le monde entier. C'est quand même fascinant, hein, cette histoire. C'est le mythe du roi caché, d'une certaine manière.
Oui, mais moi, j'ai été interviewé par des chaînes japonaises, coréennes, etc. Donc, effectivement, c'est ce que Jung appelait un archétype, c'est-à-dire quelque chose qui, dans l'inconscient collectif, fait écho. L'idée qu'un roi, un grand monarque, reviendra à la fin des temps, rétablir l'âge d'or.
C'est Nostradamus.
Voilà,
oui.
C'est à la fois Nostradamus, mais c'est tout ce cycle prophétique qu'on va retrouver au cours de l'histoire de France. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, un personnage comme Dundorf, on en parlait tout à l'heure, était mêlé de cette atmosphère de prophétisme, de providentialisme. Il crée une religion, Dundorf, hein. Il se proclame aussi prophète. Enfin, bon, tout ça fait que on baigne dans un romantisme en même temps, hein, dans une période où le surnaturel réapparaît d'une manière.
Effectivement,
un peu,
et c'est cette nostalgie du grand monarque est aussi une nostalgie de Dieu. La Révolution avait œuvré pour l'extermination définitive de toute transcendance, à laquelle appartient aussi le roi de France.
Juliette, qui essaie peut-être un peu de mettre tout le monde d'accord, nous demande, justement Jean-Louis Bachelet, pourquoi ne pas évoquer la théorie pourtant crédible de Louis Astier, selon laquelle Louis XVII serait mort en 1794. C'est-à-dire qu'il y aurait bien eu une substitution, mais plus tôt, en fait.
Oui, alors ça, c'est pas la seule dont on est parlé. Hein. Toutes les hypothèses ont couru sur ce sujet. On a voulu le faire disparaître à n'importe quel moment, notamment par exemple avec Robespierre. Mais là encore, imaginez que Robespierre, qui a effectivement fait une visite au temple, pour voir la sœur de...
Oui, ça, on en a la preuve. J'ai même montré à la télévision le document qui en atteste.
Tout à fait.
Enfin, elle le dit, oui, on est presque certain.
On est presque certain.
Elle dit,
est
venu quelqu'un que je crois être Robespierre. Bon, on peut imaginer que Robespierre ait fait cette visite, effectivement.
Tout à fait, mais on est par contre, quand on voit le fonctionnement du comité de sûreté générale, du comité de salut public, quand on voit un petit peu les papiers qu'il fallait signer pour faire sortir quelqu'un du temple, ou en tout cas pour entrer au temple, on a du mal à imaginer un Robespierre tout-puissant entrant au temple exactement comme on...
Il y avait des portes cadenassées à chaque étage du temple. Il était au deuxième étage et il fallait passer au moins 6 portes avant d'arriver dans sa cellule.
Les portes étaient groupées par deux, une porte en fer, une porte en chêne, et on ne pouvait pas en ouvrir une sans avoir fermé la précédente. C'était...
Alors, ça m'amuse parce que tout en vous écoutant, je vois arriver des messages. Il y a quand même des contradicteurs, hein, je vous rassure. Il y a un certain nombre de personnes qui sont horrifiées par ce qu'ils sont en train d'entendre sur cette antenne.
Vous savez, là, on est dans le domaine avec Louis XVII. On n'est pas dans le domaine nécessairement de la raison, mais de la croyance. Presque
Alors,
d'une croyance presque religieuse.
C'est
donc
ça.
À partir du moment où on a une croyance, eh bien, on ne peut pas, aucun élément de raison ne peut apporter une preuve définitive.
Votre ouvrage s'appelle Sang royal, Jean-Louis Bachelet. Est-ce que la question qui se pose, c'est pas justement le passage d'un monde sacré à un monde profane, d'une certaine manière? Et est-ce que le personnel de la toute jeune République, qui a été en charge de cet otage tellement embarrassant, avait les éléments mentaux pour comprendre la dimension mystique, religieuse, royale, sacrée qui s'attachait à cet enfant? Pour eux, c'était après tout le fils du tyran, j'ai envie de dire point final.
Oui, mais cette haine, d'ailleurs, cette haine qui courait dans le sang de tous les révolutionnaires, haine à laquelle il devait jurer, même à la Convention. C'est-à-dire que même en 1796, on trouve encore le serment de haine à la royauté qui doit être fait par les conventionnels. De ce point de vue-là, je crois que ce n'était pas une affaire de conscience. Je crois que c'était quelque chose qui était inscrit véritablement dans la dogmatique révolutionnaire. Et ce, depuis très très longtemps, depuis les sociétés de pensée de 1750, on trouve de toute façon une énergie systématique et une volonté continue de se débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir de lien avec l'idée de Dieu et l'idée d'un monarque en France.
Mais Hébert, par exemple, le père Duchesne, le fameux journaliste le père Duchesne, oui. qui était un ultra-révolutionnaire.
C'est moins qu'on puisse dire, oui.
Dit,
un enragé.
On parle de Sapajou, de fils d'une guenon qu'il faut envoyer sur une île déserte. Enfin bon, il y a des phrases vraiment d'une violence extraordinaire. Et puis, on est quand même à l'époque où la Vendée va être saccagée, massacrée, des dizaines de milliers de Vendéens vont être massacrés, et pas uniquement d'ailleurs à Lyon, à Marseille, à Toulon, au nom de la liberté.
Pour nos plus jeunes auditeurs, et qui nous écoutent notamment en podcast, parce que là, sinon une grande partie d'entre eux sont à l'école à cette heure-ci, il faut peut-être rappeler ce qu'est devenue la sœur, la grande sœur de Louis
Charles. C'est la seule rescapée de la famille, mm-hmm. puisqu'elle elle était enfermée à l'étage supérieur du temple, et elle était plus âgée, elle avait une quinzaine d'années, donc elle va subvenir à ses besoins, elle fait son ménage, elle se tient propre, etc. Et elle va finalement donc survivre, et puis elle n'est pas un enjeu politique, puisqu'en France, les femmes ne peuvent pas hériter du trône. Donc finalement, lorsque la convention, puis ensuite le directoire s'agisse, en fait, eh bien, elle est échangée contre des otages en Autriche, et elle retourne dans sa famille maternelle en Autriche, où elle va finir par épouser d'ailleurs son cousin, le duc d'Angoulême.
C'est tout ça, c'est quand même incroyable entre nous.
Hein. Elle n'aura pas d'enfant, mais elle va mourir seulement en 1851.
Donc en ayant accompagné le vieux roi Charles X en exil.
Voilà, Charles X, puis ensuite Chambord.
Et le comte de Chambord,
hein, puisqu'elle
oui, son
meurt petit-fils. À Froidfort chez le comte de Chambord.
Alors tout ça, c'est l'histoire royale. Revenons peut-être sur l'histoire de cet enfant. C'est vrai qu'il n'a vécu que 10 ans, mais c'est assez pour écrire une biographie d'une certaine manière. La biographie d'un enfant, Philippe
Delorme.
Oui,
mais c'est 10 ans qui sont les 10 années les plus cruciales
c'est
de
ça.
L'histoire de France.
Eh
parce
oui.
que quand il naît en 1785, il est le Versailles.
La monarchie est déjà très agitée.
Oui, elle est agitée, mais il est à Versailles, dans les ors de Versailles. On n'imagine pas que le roi puisse un jour être détrôné. Et lorsqu'il meurt 10 ans plus tard, en 1795, la France est débarrassée de la monarchie, est en république, et la terreur est passée par là, etc. Donc c'est vraiment les 10 années les plus fondamentales, je dirais, de notre histoire. C'est les 10 années de la vie de cet enfant.
Que peut-on dire du tempérament de ce petit roi, si l'on peut dire qui était-il, ce Louis XVII?
Tout le monde, c'était un enfant extrêmement enjoué, vif d'esprit.
Très joyeux.
Très joyeux, très vif d'esprit.
Contrairement à son grand frère.
Chose, je crois, à signaler, Louis XVI avait déjà été éduqué selon les principes en vogue, selon les principes d'égalité. Il n'était plus le roi de France, le roi tyran, le despote, il était le père de la nation, véritablement, et il a élevé le petit dauphin dans cet esprit d'amour pour son peuple et dans toutes les vertus qui accompagnent cela. Donc si vous voulez, il n'a pas véritablement... Le petit dauphin n'était pas un enfant qui a été éduqué comme un despote, il a été éduqué comme un, je crois, tout simplement un chrétien conscient de sa responsabilité, de la responsabilité qui lui était donnée.
Et sa mère tenait beaucoup à ce qu'il reçoive un enseignement moderne d'une certaine manière.
Oui, elle est assez proche des idées de Rousseau, de l'amour maternel, etc. Mais il faut voir que dès l'âge de 4 ans, il va être confronté quand même au malheur. C'est-à-dire que c'est la Révolution française, c'est les journées d'octobre, lorsque la famille royale est ramenée à Paris au milieu des têtes coupées, etc.
Est-ce que pour lui, c'est pas plutôt un jeu qu'autre chose?
Non, je pense que très très rapidement, il se rend compte quand même de la tension qui est autour de lui.
Il voit ses parents très nerveux.
Ses parents, il souffre, il a des
cauchemars.
Il y a la fuite
à Varennes, cette chose.
Au moment de Varennes,
il a des cauchemars
où il se voit entouré de loups, etc. et de tigres, etc. Non, c'est un enfant qui très très rapidement va apprendre à dissimuler, à intérioriser sa douleur.
On a l'impression que c'est un enfant, mais c'est un esprit un peu malléable quand même lorsque Simon va réussir à le transformer
entendu,
en petit républicain.
Bien entendu, et c'est ça le pire, j'irais, dans cette histoire, c'est que non seulement on veut le détruire physiquement, mais on veut aussi le transformer moralement. C'est déjà les camps de concentration du Viet Minh au moment de l'Indochine.
En c'est-à-dire,
on
oui, va. Vous faites allusion au lavage de cerveau.
Voilà,
quoi,
on rééduque. Non seulement on doit détruire l'ennemi, mais on ne le détruit pas, on doit le rééduquer. On doit en faire devenir un adepte de sa propre. C'est ce
qu'est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le corps qui réagit en quelque sorte et qui, devant cette dévastation mentale, finit par céder.
Oui, hein. Et puis en plus, on était au début du lavage de cerveau, je dirais, on venait de l'inventer, donc il n'a pas été mené à bien de manière extraordinaire par ce fameux cordonnier Simon qui était.
Alors ensuite, voilà. Il y a cette réclusion, cette espèce
oui,
d'isolement.
On le laisse pourrir en fait, et croupir. Oui.
Emmanuel Bonneville-Baruchel, qui est psychologue clinicienne que j'ai consultée, qui est spécialiste des traumatismes de l'enfance comme ça, m'a dit que de toute façon le traitement qui a été infligé à cet enfant pendant 6 mois suffit à développer un syndrome de Stockholm caractéristique qui explique qu'il se soit coiffé du bonnet phrygien, qu'il ait chanté à la carmagnole. C'est tout à fait explicable, d'autant qu'en plus de ça il y a forcément eu un effondrement psychique du fait de l'alcool. Les dégâts de l'alcool sur un enfant de cet âge-là, c'est terrifiant.
Plus la tuberculose qu'il avait contractée quelques mois auparavant, qui va faire petit à petit son œuvre jusqu'à la fin.
Jean-Louis Bachelet, Sang Royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, c'est chez Ring. Et Philippe Delorme, Louis XVII, la biographie, c'est chez Via Romana.
Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand vous explique les origines de l'expression l'Arlésienne.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous Franck, une question d'Éléonore sur le site europe1.fr. Pourquoi dit-on une Arlésienne pour évoquer quelque chose ou quelqu'un dont on parle mais qui n'arrive jamais?
Mais il faut rouvrir les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. C'est une courte nouvelle au départ, cette Arlésienne. En fait, Daudet avait tiré cette histoire d'un fait divers réel qui était la mort du neveu de Frédéric Mistral. La nouvelle raconte l'histoire de Jean, ça s'écrit J-A-N, un jeune Provençal de 20 ans, qui y est tombé complètement fou amoureux d'une petite Arlésienne tout en velours et dentelle, nous dit Daudet. Et malgré les réticences de ses parents, le mariage avec cet inconnu est planifié. Seulement, Jean apprend que la jeune fille qu'il n'a pas pu revoir est en fait assez légère. L'union n'aura pas lieu. L'Arlésienne ne viendra jamais. Il est complètement fou de désespoir, ce jeune homme. Il finit par mettre fin à ses jours. Vous comprenez donc ce personnage de l'Arlésienne qui est au cœur de l'intrigue, mais qu'on ne voit pas, qui est toujours absent. Voilà, tout simplement. Alors, en 1872, Daudet va adapter son texte pour la scène. C'est Georges Bizet qui va faire la musique, vous savez, bien entendu. Musique qui, entre parenthèses, a une postérité beaucoup plus grande que le texte original. On a ensuite parlé d'Arlésienne pour désigner, d'abord dans une œuvre et puis petit à petit dans la vie, un personnage essentiel mais qui n'apparaît jamais. Hein. On dit aujourd'hui aussi une Arlésienne pour dire que on ne verra pas celui ou celle dont on parle ou dont on parlait.